Yola Reitman est une figure connue en Israël, une héroïne même. Cette femme, âgée en 2024 de 77 ans, continue de parcourir le monde pour raconter son histoire. Au début des années 1980, cette Israélienne était hôtesse de l'air quand elle a été recrutée par le Mossad, le service de renseignement d'Israël, chargé des opérations secrètes à l'étranger. Un service resté longtemps exclusivement masculin, où les femmes étaient cantonnées dans des fonctions administratives ou dans des rôles d'appât sexuel, grand classique de l'espionnage. Mais au fil des décennies, le Mossad a de plus en plus ouvert aux femmes le recrutement de ses agents d'action.
Quand vous voulez recruter quelqu'un pour une opération clandestine, il y a plusieurs points importants. D'abord, l'habileté à jouer un rôle et à devenir quelqu'un d'autre. Si vous n'avez pas ça, tout le reste est inutile. Et si vous travaillez dans un pays ennemi, votre couverture doit être parfaite. Si quelqu'un vous suspecte, ça peut devenir très désagréable et dangereux.
En 1982, Yola Reitman a été envoyée au Soudan pour participer à une des opérations les plus spectaculaires du Mossad décidée par le gouvernement israélien. Le sauvetage dans le plus grand secret de dizaines de milliers de Beta Israël, appelés aussi Falasha, ces Juifs d'Éthiopie qui fuyaient leur pays en guerre et croupissaient dans des camps de réfugiés au Soudan, pays voisin. Plusieurs actions dans ce but ont été menées par le Mossad dans les années 80. L'opération Moïse, l'opération Salomon, mais la première, celle dont Yola Reitman fut une des protagonistes, fut l'opération Brothers, ou opération Frère, qui inspirera le film Red Sea Diving Resort de Netflix.
Le Red Sea Diving Resort, c'est un hôtel qu'on peut utiliser pour faire passer des réfugiés du Soudan en Israël.
La méthode à haut risque était audacieuse et totalement inédite. Au Soudan, au bord de la mer Rouge, Yola et ses camarades du Mossad, se faisant passer pour des professionnels du tourisme, ont créé de toutes pièces un club de vacances nommé Arouz, spécialisé dans la plongée sous-marine. Fréquenté par des touristes du monde entier, ce lieu éloigné de tout et idyllique servait en même temps et avant tout de base arrière du Mossad pour l'exfiltration des Juifs éthiopiens vers Israël.
Ce club de vacances est vite devenu populaire auprès des plongeurs d'Europe. Dans la journée, l'équipe était occupée comme dans un centre de vacances normal. La nuit, le lieu devenait un centre d'exfiltration.
Conduit de nuit à travers le désert depuis Khartoum, la capitale du Soudan, les réfugiés étaient emmenés en camion jusqu'à une plage de la mer Rouge. Là, au lever du soleil, sous la menace permanente d'une descente de la police soudanaise, ils étaient embarqués dans des zodiacs et conduits en haute mer où les attendaient des navires militaires israéliens. Mais pourquoi Yola Reitman a-t-elle été choisie pour cette mission dangereuse ? Vous vous en doutez, ce ne sont pas ses compétences d'hôtesse de l'air qui intéressaient l'agent recruteur du Mossad, mais sa passion depuis toujours pour la mer, son expérience de la voile et de la plongée. Une jeune femme sportive et sympathique, et avec ses cheveux blonds, ses yeux bleus, elle passait sans difficulté pour une Européenne. Yola Reitman, courageuse et déterminée, avait donc tous les atouts pour mener la double vie de gentille monitrice de vacances et d'espionne en mission dans un pays ennemi. Née en Allemagne en 1947, Yola Reitman est la fille de rescapés de la Shoah. Sa mère a passé une partie de la guerre cachée dans une cave, tandis que son père, pour échapper aux persécutions et à la mort, avait réussi à fuir sous une fausse identité en Union soviétique.
Cette Allemagne, qui n'était plus qu'une ruine, où les villes en morceaux ne feraient plus sous le ciel qu'un paysage uniformément chaotique, où erraient des populations désespérées, qu'allaient en faire les vainqueurs ?
Au lendemain de la guerre, les deux se rencontrent un peu par hasard dans un camp de personnes déplacées. Mais quand on est juif, comment rester en Allemagne après la Shoah.
À l'ex-success, le Conseil de sécurité des Nations Unies vient de voter l'admission de l'État israélien au sein de l'ONU. Malgré l'opposition de l'Égypte et l'abstention de la Grande-Bretagne, Israël, désormais 59e membre de l'organisation, voit ainsi son existence confirmée sur le plan international.
Comme de nombreux juifs après la Seconde Guerre mondiale, le jeune couple avec son bébé décide en 1950 de rejoindre l'État d'Israël, dont la naissance a été proclamée 2 ans plus tôt.
J'étais endormie, mais mon père il m'a réveillée, il m'a dit « Lève-toi, habille-toi ». Je me suis habillée et puis quand je lui ai dit « Où on s'en va, papa ?», il m'a dit « On s'en va en Israël ».
Yola a alors 3 ans. De sa petite enfance en Europe, Yola gardera peu de choses, sinon la connaissance de l'allemand et du même coup, un talent certain pour les langues étrangères. En Israël, sa mère est femme au foyer. Son père multiplie les métiers les plus divers pour nourrir sa famille. Entrepreneur, marchand de diamants, chauffeur de taxi. Très jeune, Yola développe une passion pour la mer. Enfant, elle apprend la voile chez les scouts marins. Mais après de vagues études d'architecture et son service militaire, obligatoire en Israël, même pour les filles, c'est dans les airs que Yola choisit de travailler. Elle devient hôtesse de l'air à la compagnie nationale El Al.
Mesdames et messieurs, bonjour. Le capitaine Foutman et son équipage vous souhaitent la bienvenue à bord du vol El Al 422. Notre prochaine escale est Tel Aviv, que nous atteindrons en 4 heures. Nous volerons à une altitude de 33 000 pieds et à une vitesse de 900 km/h. Nous vous souhaitons un voyage agréable.
Mais la mer finit par la rattraper. En 1981, Yola, qui a maintenant 34 ans, s'achète un voilier avec l'idée de faire le tour du monde. Elle prend un congé d'El Al et part à Eilat préparer son voyage.
Au bord de la mer Rouge, vous trouverez certains des sites de plongée les plus spectaculaires du monde, des lieux magnifiques, naturels et préservés. Les couleurs, la vie marine, tout est si intense. Alors, qu'attendez-vous? Venez et faites le grand saut!
Eilat, station balnéaire du sud d'Israël, au bord de la mer Rouge. En attendant le grand départ, Yola Reitman gagne sa vie en promenant des touristes sur son bateau ou en les initiant à la plongée sous-marine. Mais le tour du monde va être remis à plus tard. Car c'est là, à Eilat, que Yola Reitman va être approchée par Dani Limor.
Shalom.
Cet officier du Mossad cherche une femme pour participer à une opération secrète très spéciale, exfiltrer les Juifs d'Éthiopie. L'immigration de minorités juives originaires de pays majoritairement musulmans, qui existaient déjà dans les années 20 et 30, s'est multipliée après la création d'Israël. Dès 1949, par exemple, l'Agence juive, l'organisme chargé de l'accueil des Juifs du monde entier, monte l'opération clandestine Tapis volant. L'objectif, aller au Yémen, ce pays du sud de la péninsule arabique, chercher la quasi-totalité des Juifs de cette très ancienne communauté qui subit alors des persécutions antisémites.
C'est par la voie des airs que le gouvernement israélien fait rapatrier ses ressortissants du Yémen. Touchant pour la première fois le sol de la terre promise, beaucoup réalisent un vieux rêve longtemps jugé chimérique. Après le camp provisoire, cette population sera répartie dans tout le pays. Plus de 250 000 Juifs yéménites ont franchi ou franchiront ainsi par avion les déserts de l'Arabie saoudite qui les séparait de la Palestine. C'est un des plus vastes transferts de population, pacifique et volontaire, que l'histoire ait connu.
En 1950, l'opération dite Ezra et Néhémie permet cette fois de sauver plus de 130 000 Juifs d'Irak, eux aussi persécutés. Dans les années 50-60, après les indépendances du Maroc, de la Tunisie et de l'Algérie, près de 400 000 Juifs séfarades immigrent en Israël. Mais à la fin des années 70, pourquoi l'État israélien s'intéresse-t-il aux Juifs noirs d'Éthiopie? Appelés aussi Falasha, un terme qu'eux-mêmes jugent péjoratif, les Juifs éthiopiens forment une très ancienne communauté, vieille de 3000 ans, vivant dans le nord du pays.
Nous voici donc en présence des derniers Falasha.
prétend qu'ils étaient 300 000 au siècle dernier. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 25 000, répartis entre de nombreux petits villages où continue de régner le mode de vie traditionnel. Ils tissent eux-mêmes leurs vêtements et confectionnent une nourriture dont le plat de résistance ressemble aux crêpes ou au pain azim. Les Falachas observent diverses règles alimentaires. En particulier, les lois de pureté de la Torah sont strictement observées. Leur origine est en tout cas très ancienne, car s'ils connaissent les lois de la Bible, celles des Hébreux, ils ignorent les préceptes du Talmud, ceux des Juifs.
L'origine des Bêta Israël, comme ils se nomment eux-mêmes, reste incertaine et légendaire. Ils affirment descendre de Ménélik, le fils du roi Salomon et de la reine de Saba, ou bien de la tribu de Dan, une des 12 tribus perdues d'Israël. Un reportage de la télévision française en 1963, près du lac Tana, au nord de l'Éthiopie, porte un regard à la fois fasciné et condescendant sur cette communauté.
Les artisans installés dans les parages du lac, les Falachas, sont des juifs établis en Éthiopie depuis des millénaires. Ils étaient là bien avant les Coptes chrétiens. Peut-être même avaient-ils déjà traversé la mer Rouge au temps de la reine de Saba. C'est ce qu'enseigne en tout cas leur tradition. La pureté de leur type n'a pas changé, ni la simplicité de leur coutume, leur isolement, leur innocence du monde d'aujourd'hui. Personne ne sait combien ils sont encore au juste, 30 ou 60 000.
L'Éthiopie, ce grand pays de la corne de l'Afrique, a longtemps été dominé par l'empereur Haïlé Sélassié. Mais en 1974, celui-ci est renversé par une junte militaire, le Derg, dirigée par Mengistu Haïlé Mariam, qui met en place une dictature d'inspiration marxiste.
Addis Abeba est calme ce matin, l'armée est toujours présente dans les rues avec ses blindés, mais les magasins ont rouvert leurs portes et les services publics fonctionnent normalement. Le premier moment d'étonnement passé, les Éthiopiens réalisent maintenant que la déposition de l'empereur était devenue inévitable.
Commence en Éthiopie de longues années de guerre civile et de famine, dont les civils, comme toujours, sont les premières victimes. Les Bêta Israël, qui subissent aussi les persécutions anti-religieuses du régime, cherchent à fuir vers les camps de réfugiés du Soudan, le pays voisin. Un reportage pour Antenne 2.
Ce sont en effet des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants squelettiques qui arrivent depuis quelques semaines au Soudan. Ils viennent d'Éthiopie et ont parcouru des dizaines de kilomètres dans le désert, fuyant la famine qui ravage leur pays. Le problème, c'est qu'ils arrivent dans une région, l'Est Soudan, où les morts se comptent là aussi par milliers, victimes, là encore, de la famine. Des camps de réfugiés se sont donc créés tout au long de la frontière entre le Soudan et l'Éthiopie, des camps où l'on manque de tout, où l'on vient mourir, en attendant une aide hypothétique des organisations humanitaires débordées par le phénomène.
Parmi les Juifs éthiopiens qui quittent leur pays, il y a Fereydeh Akloum, un instituteur et maire de son village, un homme recherché pour activités anti-gouvernementales. En 1977, quand il arrive au Soudan, cet activiste réussit à envoyer des télégrammes en Israël pour alerter de la situation désastreuse de ses compatriotes. 1977, c'est aussi l'année où Menachem Begin est élu Premier ministre en Israël. France Inter, 18 mai 1977.
Ce qui s'est passé hier et cette nuit en Israël est très important. La droite du Likoud l'a emporté assez largement sur les travaillistes jusqu'alors au pouvoir. 30 ans de domination et un échec cuisant cette nuit face à un parti dur, le parti Likoud, dirigé par Menachem Begin.
C'est Menachem Begin qui donne l'ordre au Mossad d'initier en secret le sauvetage des Juifs d'Éthiopie. Des populations dont le caractère juif vient d'être reconnu par les religieux. Ce qui leur ouvre le bénéfice de la loi du retour qui permet à tout Juif d'immigrer en Israël. Le Mossad envoie au Soudan un agent à la recherche de Fereydeh Akloum. Un agent qui n'est autre que Danny Limor. Vous vous souvenez, celui qui, quelques années plus tard, recrutera Yola Reitman. Dani Limor débarque à Khartoum en se faisant passer pour un anthropologue en mission scientifique, non juif et venant d'un pays européen, car le Soudan est un pays arabe, alors ennemi d'Israël. À son arrivée, Dani Limor mettra du temps à trouver Ferhadé Akloum dans les camps de réfugiés. Ces camps, véritables égouts à ciel ouvert, sans eau, tenus par des gardes corrompus qui vendent la nourriture à prix d'or à des réfugiés affamés. C'est avec Ferhadé Akloum que Dani Limor va mettre au point ses projets d'exfiltration. Mais 18 mois plus tard, ce juif éthiopien, repéré comme agent du Mossad, devra être exfiltré d'urgence en Israël. Des années plus tard, Dani Limor, dans une interview, rendra hommage à Ferhadé Akloum, sans qui cette opération très particulière pour un agent du Mossad n'aurait pas été possible.
J'ai rencontré Ferhadé et nous avons commencé à travailler en équipe. Nous prenions les décisions ensemble. J'avais déjà l'expérience d'opérations dans des pays ennemis. Mais ce type de mission était totalement nouveau pour moi. Là, il s'agissait de personnes. Habituellement, au Mossad, il s'agit de personnes, mais dans une autre direction. Là, nous devions sauver des gens, prendre en charge des personnes âgées, des femmes, des bébés, des femmes enceintes. C'est autre chose. Il fallait que je change mon état d'esprit, que je m'adapte.
Dans un premier temps, ils interviennent à petite échelle. Des réfugiés, par groupes restreints, quittent le Soudan sur des vols réguliers pour l'Europe, d'où dans un second temps, ils s'envoleront pour Israël. Mais avec les ravages incessants de la guerre et de la famine en Éthiopie, l'afflux de plus en plus massif des réfugiés, ils doivent trouver une autre méthode. Comme Israël a un accès à la mer Rouge, le faux archéologue vrai espion explore la côte soudanaise à la recherche d'une plage où l'on pourrait procéder à des embarquements discrets. En 1981, alors que Dani roule le long de la mer Rouge, avec d'un côté l'immensité du désert, de l'autre l'immensité de la mer et au-dessus un soleil de plomb, il tombe soudain sur un lieu surprenant appelé Arroz. Une série de petits bungalows visiblement abandonnés, battus par le vent et le sable. Ce club de vacances tenu par des Italiens a été abandonné 5 ans auparavant. Voilà, se dit Dani, j'ai trouvé.
Un peu par hasard, nous avons trouvé ce village de vacances qui est devenu notre couverture pendant les 5 années qui ont suivi. Nous avons opéré dans ce village avec des touristes et tout ce qui va avec. Et ce village nous fournissait la couverture idéale. Le regretté John Le Carré l'aurait appelé la couverture parfaite. Et nous aussi.
De retour à Khartoum, Dani Limor se rend au ministère du tourisme soudanais. Se faisant passer pour un investisseur suisse et moyennant un gros bakchiche, il obtient la location du site d'Arroz pour 250 000 dollars par an. Mais il doit aussi convaincre le Mossad.
Je vais être sûr de bien comprendre. Vous voulez que le Mossad, les services de renseignement israéliens, se portent acquéreurs d'un hôtel abandonné auprès du gouvernement soudanais?
En location, mais oui.
Donc, votre idée, c'est d'envoyer un groupe de juifs dans un pays musulman pour tenir un faux hôtel, tout ça pour venir en aide à un groupe de juifs noirs qui auront préalablement survécu ou non à une marche de 1000 km à travers le désert, en les faisant sortir clandestinement par la mer avec l'aide de la marine israélienne jusqu'à un navire israélien.
Qui devra se faire passer pour un simple pétrolier. Oui, c'est n'importe quoi.
C'est n'importe quoi, mais Dani Limor finit par avoir gain de cause. Il doit maintenant, dans le plus grand secret, constituer son équipe. Des hommes qui, le jour, seront de gentils animateurs d'un club de plongée, et la nuit, ils redeviendront ce qu'ils sont vraiment, des agents du Mossad en mission. Des hommes, mais aussi une femme, qui sera aussi compétente qu'eux, mais qui donnera à l'équipe une image rassurante et respectable. C'est donc ainsi que Yola Reitman entre dans le projet. En faisant sa connaissance, Danny Limor est vite persuadé d'avoir trouvé la bonne personne.
Il cherchait une femme qui parle plusieurs langues, qui ait de l'expérience dans le tourisme, qui soit sûre d'elle et courageuse. J'ai accepté tout de suite, pour l'aventure et par patriotisme.
Une fois son équipe constituée, Danny Limor doit encore persuader ses supérieurs que cette mission, si inhabituelle, est utile et faisable. Très convaincant, semble-t-il, il obtient le feu vert d'Itzhak Ofi, qui est alors le grand directeur du Mossad. Mais Ephraim Halevi, le supérieur direct de Danny Limor, continue de ne pas y croire.
Pour information, il n'y a pas une seule personne dans ce groupe que j'aurais choisi pour mener à bien ce type de mission. Vous êtes tous trop imprudents. Je suis allé à l'encontre de tous mes instincts. J'ai enfreint toutes les règles de gestion des risques auxquels je me fie, à commencer par le fait d'envoyer une femme dans un pays musulman. Alors que ce soit bien clair, il n'y a aucun renfort pour vous là-bas. Et si ça tourne mal, vous finirez tous pendus en haut d'une grue à Khartoum.
Yola Reitman est consciente des risques. Mais avant d'être recrutée pour de bon au Mossad, elle doit, comme tout postulant, franchir plusieurs étapes. Première condition indispensable, avoir la nationalité israélienne et être juif. Ensuite, une enquête de sécurité passe au crible le passé, la famille et les amis. Viennent les évaluations psychologiques. La postulante doit répondre à des questionnaires et passer au détecteur de mensonges. Toute réponse fausse ou approximative est éliminatoire. Yola Reitman passe brillamment toutes ces épreuves. Arrive maintenant la formation au métier d'espion, qui va durer de longs mois. Si l'opération Brothers est présentée avant tout comme une mission humanitaire, Yola doit, comme tout nouvel agent du Mossad, connaître le maniement des armes, apprendre le fameux « tir pour tuer » que l'agent israélien ne doit exécuter que s'il a été démasqué par l'adversaire. Yola est initiée aussi aux techniques de filature et de contre-filature, et rapidement, elle est mise à l'épreuve dans un exercice pratique, comme elle l'explique à Apple TV.
J'étais dans la rue et mon instructeur me montre les taxis qui passent. Regarde le numéro de ce taxi. D'accord. Le taxi disparaît. Et il me dit, dans 2 heures, tu me retrouves à ce coin de rue et tu me rapportes le nom et l'adresse du chauffeur de taxi. Bien sûr, il n'y avait pas d'internet. Je ne pouvais pas passer par la police ou l'administration. J'étais supposée être une touriste. Alors je me suis dit, qu'est-ce que je dois faire? Donc j'ai commencé par me rendre d'une station de taxi à l'autre, en demandant aux gens s'ils connaissaient ce taxi, ce numéro, parce que j'avais oublié quelque chose à bord. C'était très important que je retrouve ce chauffeur de taxi. Donc ils ont commencé à s'appeler les uns, les autres. Quelqu'un qui voulait m'aider m'a même proposé de m'emmener chez le chauffeur de taxi. Je l'ai fait. Et voilà, j'avais accompli ma mission, j'étais la seule dans mon groupe à avoir rapporté l'information qu'on m'avait demandée.
Mais la dernière épreuve du recrutement est la plus difficile et la plus angoissante, celle appelée « capture ». Sans être averti qu'il s'agit d'un exercice, le postulant est victime d'une arrestation et subit un interrogatoire en conditions réelles, c'est-à-dire qu'il peut être violent. Yola Reitman n'y échappe pas. Elle est arrêtée en pleine nuit et interrogée sans pitié pendant des heures. Une ultime épreuve dont elle se sort bien, puisque des 3 postulants en formation avec elle, Yola est la seule, au bout du compte, à être recrutée au Mossad. Elle peut désormais rejoindre Danny Limor. En 1982, l'évacuation des Juifs d'Éthiopie, initiée 5 ans plus tôt par Menahem Begin, est plus que jamais une urgence.
L'Éthiopie est actuellement menacée par une grave famine. La sécheresse actuellement constatée dans les régions situées au nord d'Addis Abeba risque de réduire à la famine 1 million de personnes installées sur les hauts plateaux.
Yola Reitman a maintenant 35 ans. Sous une fausse identité et une fausse nationalité, l'espionne israélienne s'envole pour le Soudan via une escale en Suisse, histoire de brouiller les pistes. À Genève, elle embarque sur un vol pour Khartoum, et de là, elle prend la route vers le nord, le long de la mer Rouge. La découverte du site d'Arouz, où elle va vivre 3 ans, est un enchantement pour cette sportive, amoureuse de la mer et du soleil. Dany Limor a déjà fait imprimer une plaquette qui vante les vertus paradisiaques de ce lieu de vacances. Mais quand Yola y arrive avec d'autres agents du Mossad, le village ne ressemble encore à rien.
Ça ressemble pas vraiment à la brochure.
C'est un vrai dépotoir. Un petit coup de balai et ça ira.
Dès son arrivée, Yola s'attelle à remettre sur pied le village de vacances afin qu'il puisse recevoir des clients de manière professionnelle. Pour le personnel hôtelier, elle fait appel à la population locale musulmane. Les cuisiniers, les serveurs, les femmes de chambre, les chauffeurs. Elle leur parle arabe, mais pour ne pas éveiller les soupçons sur sa véritable nationalité, elle fait attention à ne pas utiliser d'expression palestinienne. C'est Yola aussi qui, au quotidien, s'occupe de la logistique. L'approvisionnement en eau, nourriture, électricité, essence, des équipements ultra-modernes importés d'Israël sont installés. Climatiseurs, Zodiac, matériel de plongée dernier cri et une planche à voile, la première introduite au Soudan.
La sérénité et l'impression d'immensité sont les premières choses que vous ressentirez en commençant cette ultime aventure sous-marine. Les récifs coralliens offrent un habitat naturel étonnant pour la vie sous-marine. Les visiteurs peuvent observer des hippocampes, des poissons lions, des poissons globes masqués, des poissons clowns.
Grâce aux dépliants publicitaires envoyés aux agences de voyage spécialisées dans la plongée sous-marine, qui vantent la qualité de cet hôtel de charme, ses équipements sportifs et sa cuisine délicieuse, des touristes du monde entier se mettent à arriver. Pas suffisamment pour rentabiliser de manière normale un tel lieu, mais suffisamment pour servir de couverture crédible aux activités du Mossad. Dans la journée, une équipe s'occupe des vacanciers. Sportifs et bronzés, ces espions du Mossad sont parfaits dans le rôle de gentils moniteurs. Tandis que la nuit, une autre équipe part en camion chercher des réfugiés qui vivent dans des camps au sud-est de Khartoum. Pour éviter les fuites, les réfugiés ne sont prévenus qu'à la dernière minute de leur sauvetage. Ils embarquent à 12 par camion et prennent la route, toujours de nuit, en direction du nord, vers la mer Rouge. Un voyage de 900 km, long et périlleux, semé de barrages routiers. Si la police arrête le convoi, l'ordre des agents du Mossad est de ne faire aucun bruit. Mais il arrive par nécessité que les camions forcent les barrages. Yola Reitman, elle, reste au village. Sa mission, la nuit, est d'assurer par liaison radio la coordination entre les convois de camions et les navires israéliens chargés de récupérer les réfugiés qui les attendent sur une plage. Des navires militaires qui sont déguisés en navires de commerce. C'est Yola qui donne au commandant le lieu précis et l'heure de l'exfiltration. Au moment indiqué, les bateaux qui stationnent au large mettent à l'eau les zodiacs qui filent vers la plage pour embarquer les réfugiés. Une fois les réfugiés montés à bord, le navire repart en direction d'Israël. C'est la fin de leur long périple vers leur terre promise. Au quotidien, un des problèmes de taille de Yola est l'essence. Il en faut beaucoup en effet pour assurer ses longs allers-retours en camion. Yola réussit à se mettre dans la poche le chef local de la compagnie pétrolière. En le payant de la main à la main, elle obtient toute l'essence qu'elle veut. Elle se fait amie aussi avec le gouverneur local. Yola lui offre discrètement des bouteilles de whisky, un avantage au Soudan où la charia interdit la vente d'alcool. Comme le montre ce reportage pour Antenne 2 de Sylvie Marion.
Opération Ville Sèche à Khartoum au Soudan, où le président Niémeré en personne a guidé les rouleaux compresseurs dans leur tâche, détruire tout ce qui de près ou de loin a trait à l'alcool, bière, vin, whisky, vodka et j'en passe. Au nom de l'islam, l'alcool piétiné par la foi s'est déversé dans les caniveaux de la ville et est allé s'écouler doucement dans le Nil sous le regard fasciné de quelques Européens mêlés à la foule.
Les petits arrangements de Yola facilitent les activités nocturnes du Mossad.
Comme les policiers savent qu'on est en bon terme avec leur chef, ils n'arrêtent jamais nos voitures.
Il n'empêche, ce village de vacances suscite la méfiance. L'équipe doit donc rester en permanence sur ses gardes. Un matin, à l'aube, des policiers investissent l'hôtel.
J'ai été accueillie au saut du lit par une unité entière de type armée de mitrailleuses qui n'était pas là pour plaisanter.
Lors de sa formation au Mossad, Yola a appris qu'en cas d'arrestation ou d'interrogatoire, le plus important, pour soi-même et pour son équipe, est de garder son calme et de ne jamais dévier de sa légende.
Une des choses très importantes quand vous êtes interrogé est de ne jamais être agressif, jamais être arrogant, jamais se montrer trop sûr de soi. Sois humble, gentil, amical, sois naïve même, en prétendant que tu ne comprends pas bien. Agis de la manière la plus naturelle possible. Et si la personne en face commence à t'apprécier parce que tu es sympa, même elle peut se sentir désolée pour toi parce que tu as peur. Et du coup, elle est de ton côté, elle ne voudra pas te briser.
Mais en mars 1982, la tension monte d'un cran lors d'une opération de sauvetage. Une nuit, les réfugiés Beta Israël viennent à peine de monter sur les Zodiacs lorsque des soldats soudanais font irruption sur la plage. Allah !
Donc nous avons dû réagir très vite. Ils nous tiraient dessus, ils tiraient sur les bateaux. Alors on s'est battu à coups de poing. Nous avons réussi à sauver l'opération. C'est-à-dire que tous les Juifs et tous les commandos ont pu être évacués sans être blessés. Et comme c'était une nuit sans lune, les policiers n'ont pas pu voir que les personnes sur les Zodiacs étaient noires. On leur a dit que c'était des touristes qui s'étaient enfuis à cause des coups de feu. J'ai été interrogé, etc. Mais comme nous avions une bonne relation avec le gouverneur local, nous avons rapidement été relâchés. Mais après ça, nous avons abandonné les opérations par la mer et opté pour l'avion.
Suite à cette mésaventure, à partir de mars 1982, les réfugiés sont transportés en plein désert vers des aérodromes désaffectés. De 1982 à 1985, l'équipe du village d'Arouz coordonne 17 évacuations clandestines aéroportées. Mais en 1985, suite à l'arrestation d'un agent qui risque de parler, le Mossad décide d'évacuer le site en urgence. Un avion est dépêché sur place et tous les agents sont exfiltrés. Au total, on estime que l'opération Brothers a permis à environ 14 000 juifs d'Éthiopie de rejoindre Israël. D'autres opérations suivront, officielles cette fois. En 1985, suite à un accord secret avec le gouvernement soudanais, l'opération Moïse permet d'évacuer plus de 6 000 réfugiés juifs. Et en 1991, l'opération Salomon. En moins de deux jours, un pont aérien transportera près de 15 000 juifs éthiopiens en Israël. Une autre aventure commençait alors pour ces réfugiés. Celle de l'intégration, parfois difficile, à un pays qui était venu les sauver, mais dont ils ignoraient tout. Ce n'est que dans les années 1990 que le Mossad rendra public l'opération Brothers. Pour le service secret, très critiqué à l'époque par la société israélienne pour ses méthodes jugées parfois violentes et injustifiées, le sauvetage des Juifs d'Éthiopie, mission humanitaire, est l'occasion de redorer son image. Et rien de tel qu'une femme pour incarner ce nouveau visage. Yola Reitman, elle, est rentrée en Israël plusieurs mois avant l'évacuation d'Arouz. Elle a retrouvé son métier d'hôtesse de l'air. Elle reprendra du service au Mossad sur des missions qui restent à ce jour secrètes. En tout cas, pour Dani Limor, Yola Reitman a été décisive pour la réussite de l'opération Brothers.
Ça a marché parce que la personne de mon équipe qui dirigeait le village n'était pas un homme. C'était une femme. Elle l'a fait, vous voyez, comme ça devait être fait. De manière très, très professionnelle.
Espion, une histoire vraie, de Stéphanie Duncan, est un podcast original de France Inter. Réalisation Audrey Ripouille, documentation Frédéric Martin, mixage Cédric Diallo et Basile Bocquer, avec les comédiens Yaël El Haddad, Laurent Stocker de la Comédie Française et Grégoire Roqueplot.